bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement, depuis le point de vue des dominés. Je suis Lissal. Duro. Sexualité et colonialité dans le reggaeton. Première partie, résister par le corps et la sexualité. DJ Liz. Le perreo, c'est un peu une résistance du corps au final. C'est une libération du corps. C'est chaud, c'est vibrant, c'est quelque chose qui te libère. Les riches dansent sur l'électro, les pauvres sur le reggaeton. Donc on peut dire que le reggaeton est notre rap? Non, au Chili on a aussi du rap. Mais à ce moment-là, pour cette génération, c'était la voix sociale. Sans contenu 100% social, mais dans le fond, il exprimait le désir des quartiers qui était d'avoir les voitures, le luxe, les femmes. Cette force vitale s'exprime très bien dans le morceau le plus emblématique du reggaeton, sorti en 2004. Gasoline, du portoricain Daddy Yankee, qui, comme vous l'aurez bien compris, ne parle pas vraiment d'essence. Daddy Yankee, gasoline. Bienvenue à un nouvel épisode de Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement, du point de vue des subalternes. Cet épisode s'intègre dans une série qui analyse la musique d'un point de vue décolonial, en envisageant ses liens avec la colonialité. Dans le premier volet de la série, nous avons retracé l'histoire de la résistance afro-brésilienne à travers la samba. Dans le deuxième, je vous ai proposé de suivre l'histoire de la cumbia péruvienne. Dans ce troisième et dernier volet de la série, nous nous intéresserons au reggaeton, un genre musical qui est devenu un phénomène mondial malgré le dédain dont il fait l'objet depuis ses origines. Depuis son apparition à la fin des années 1980, le reggaeton est taxé de musique de sauvage, de musique simple voire simpliste, sexiste et qui ne requiert d'aucune connaissance ni de talents musicaux. En somme, une musique qui n'est pas vraiment de la musique. Les artistes de reggaeton ne sont ainsi jamais conviés dans les espaces dédiés à la musique. La presse ne les invite pas pour parler de musique, mais pour faire du buzz, voire pour se moquer d'eux. Nous verrons ici que le reggaeton est un genre musical produit depuis la subalternité comme une façon de résister aux formes de domination coloniale et impériale à l'œuvre dans les Caraïbes. Face au classisme et au racisme, la charge subversive du reggaeton est de mobiliser la sexualité comme force de résistance. Or, en tant qu'expression de la liberté sexuelle des subalternes, le reggaeton se heurte à l'État et aux églises chrétiennes, notamment la catholique, dont la présence est très forte dans toute l'Amérique dite latine. Car le reggaeton est beaucoup plus qu'une musique faite par et pour les dominés. Il est, comme dans le cas de la samba brésilienne et de la cumbia péruvienne, intrinsèquement lié à une culture qui a sa langue, ses codes vestimentaires, sa danse, en l'occurrence le perreo, twerk en anglais. Il s'insère dans une culture de résistance caribéenne qui remonte à 1492. Depuis la fin du XXe siècle, cette résistance est celle des territoires en prise avec l'impérialisme états-unien et le poids de l'Église catholique dans le contrôle des corps et de la sexualité. L'épisode se décline en deux parties. Dans la première, que je vous présente aujourd'hui, nous verrons comment surgit et se développe le reggaeton jusqu'à devenir un phénomène mondial. Nous analyserons d'où vient sa puissance transgressive et de résistance, notamment à travers le perreo qui lui est associé. Il sera question finalement des opérations d'appropriation culturelle et de lissage du genre, comme dans le cas de la samba et de la cumbia. Dans la seconde partie, nous analyserons la place des femmes dans le reggaeton depuis les années 1980. Daddy Yankee, Lo que pasó, pasó, un titre de 2004. Le reggaeton prend ses racines dans la Caraïbe, dans un triangle afro-américain qui relie la Jamaïque, le Panama et Puerto Rico. Tout commence en Jamaïque, qui devient indépendante du Royaume-Uni en 1962. Dans cette île, il existe une culture afro-caribéenne spécifique dont la spiritualité Rastafari et le genre musical appelé reggae en font partie. Le dancehall est une variante du reggae et il se diffuse dans d'autres contrées de la région depuis les années 1970. Il arrive notamment au Panama, qui est une enclave états-unienne depuis la construction du canal de Panama et dont les États-Unis ont la propriété depuis 1903. À compter de cette époque, les gouvernements panaméens essaient de reprendre l'autorité sur le canal sans succès. Par ailleurs, le Panama se situe dans une zone stratégique dans le trafic de drogue entre les pays producteurs, en Amérique du Sud, et les États-Unis et l'Europe. Le Panama est donc un pays cosmopolite où les Afro-Antillais, notamment jamaïcains, sont nombreux. Ce sont eux qui introduisent le dancehall dans ce pays. Les Panaméens vont reprendre les titres jamaïcains et les traduire en espagnol. C'est la naissance du reggaeton, le reggae rap en espagnol. Les artistes panaméens font l'ensemble de la production musicale du reggae en espagnol. Ils écrivent les chansons, leur ajoutent des mélodies et les enregistrent sur des cassettes qu'ils distribuent autour d'eux en espérant de passer un jour à la radio. Ils les vendent, notamment aux conducteurs des Diablos Rojos, des autobus de transport public panaméens. Les Diablos Rojos étaient des discothèques ambulantes et c'est ainsi que le genre se popularise dans le pays. L'artiste le plus célèbre de cette cuvée est Edgardo Armando Franco, plus connu sous le nom de El General. Né au Panama, Franco est un pur produit de l'histoire de la région. Sa mère était d'origine jamaïcaine, alors que son père était d'ascendance de Trinidad et Tobago. Dès l'âge de 12 ans, El General commence à écrire des chansons qui s'inspirent de la situation sociale de son quartier et des expériences qu'il vit dans sa famille de 11 enfants. Il est de ceux qui proposent leurs cassettes au Diablos Rojos. Écoutons l'un des titres les plus célèbres de El General avec Anaïka Fox, Rica y Apretadita. Un morceau de 1994.
¿Para qué?
No lo trates, no.
¿Trates qué?
No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra.
Será tu sombra.
Y a mí me quieres para.
¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita.
Dans les décennies 1980 et 1990, le reggae en espagnol envahit les autres pays de la Caraïbe, la République dominicaine, Cuba, la Colombie, le Venezuela et bien sûr Puerto Rico. Michael Ellis, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un afro-panaméen, est le producteur musical de El General. Il participe à la diffusion du reggae en espagnol à Puerto Rico. Cette île est, depuis 1898, une colonie états-unienne devenue en 1952 un État libre associé, en réalité une île sous tutelle états-unienne. Ce statut permet aux habitantes et habitants de l'île de pouvoir entrer librement aux États-Unis, contrairement aux autres Caribéens. Cet avantage les place dans une situation de passeur dans l'histoire du reggaeton. De par son histoire, l'influence africaine est importante à Puerto Rico, comme dans le reste de la Caraïbe. Après le génocide des peuples Taïno, Caribe et Siboney, les Espagnols ont besoin de main-d'œuvre pour exploiter les richesses du continent qu'ils sont en train de coloniser. Ils se lancent alors dans la traite transatlantique et la déportation de millions d'Africaines et Africains, dont une grande partie arrive dans les Caraïbes. Aujourd'hui, un tiers des Portoricains et portoricaine et noire. De nombreux esclavisés africains importés à Cuba et à Puerto Rico parlaient l'espagnol bossal, une langue créole d'origine espagnole avec une influence congolaise et portugaise. Bien que l'espagnol bossal ait disparu au XIXe siècle, l'influence africaine dans l'espagnol parlé sur l'île est toujours évidente dans les nombreux mots congo qui font partie de l'espagnol portoricain. Quant aux spiritualités africaines, elles ont été réprimées et couvertes sous un voile catholique. Ainsi, plus de 70% des portoricaines et portoricains se déclarent catholiques. Néanmoins, la santería est toujours pratiquée dans les Caraïbes. C'est une forme de spiritualité vénérant les divinités africaines Yoruba cachées sous les images tirées de l'Église catholique. Cette culture afro a donné naissance à différents genres musicaux comme la salsa ou le merengue qui sont des références des reggaetoneros. Parallèlement, l'influence de la culture urbaine états-unienne, notamment du hip-hop, est aussi très présente dans l'île. Dans les années 1980-1990, des fêtes où les DJ jouaient du reggae avaient lieu tous les week-ends dans les parcs et les rues de Porto Rico. De ces marathons de reggae dérive le terme de reggaeton. Ces fêtes étaient le moment pour de jeunes artistes d'improviser sur les versions musicales des titres en anglais jamaïcain. Écoutons DJ Playero raconter les débuts du reggaeton portoricain des années 1980. À cette époque, il y avait des fêtes qui à Porto Rico s'appelaient Paris de Marquesina.
Cuando para los tiempos de Joseph Café, que el que conoce Joseph Café sabe lo que estoy hablando.
Au Joseph Café, on a commencé à jouer le dancehall et le ragamuffin. Il y avait aussi la house qui sonnait fort et le reggae panaméen. On a commencé à y jouer et tout le monde y allait.
Y el reggae panameño.
Le Panaméen Nando Boom fut le premier à venir à Porto Rico.
Nando Boom fue el primero que vino a Puerto Rico.
Alza la mano, tiene su pensión. Nando Boom está en Puerto Rico. Nando Boom aquí te viene a pregonar. Alza la mano, mueve los pies. Y es que Nando Boom aquí de nuevo otra vez. Mueve la cintura, aquí te canta reggae. Compálame, compálame, compálame la pensión.
El general ya le estaba haciendo ruido grande.
El general était déjà très connu. Il avait des morceaux de house et de reggae. Il y avait une bonne équipe de marketing derrière. Tout ça fait partie du début de l'influence de ce qu'on appelait alors l'underground et aujourd'hui reggaeton. Il y avait des chanteurs, spécialement panaméens, qui chantaient du reggae ou plaine. Donc les Panaméens, en plus de leurs titres originaux, traduisaient les versions en anglais jamaïcain de ragamuffin et dancehall en espagnol. Playero commence en produisant des cassettes entièrement composées de reggaeton, dans lesquelles on trouvait des artistes comme Vico C, qui circulaient dans les quartiers populaires de San Juan et qui ont influencé des artistes comme Daddy Yankee. Vico C, Bomba para Fincar,
1992. Hasta Nueva York, afinco con mi negra y así es mejor. América Latina, aquí estoy yo y te traigo mi marico del malecón. Y yo quiero que todas las mujeres me digan ah. Y yo quiero que todos los machos me digan oh. Y yo quiero que todas mis gatitas me digan ah. Y yo quiero que toda mi raza me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y para fincar, porque yo tengo bomba para brincar. Joana tiene bomba para pegar y Yajaira tiene bomba para gozar. Marisa tiene bomba para fincar. Abuelda tiene bomba para brincar. Senaya tiene bomba para pegar.
Le reggaeton est, depuis ses débuts, un art de rue, produit dans les quartiers populaires caribéens. Les artistes de ce genre musical sont des jeunes qui aspirent à vivre l'American Way of Life, qui leur est inaccessible de par leur subalternité. C'est la raison pour laquelle leurs chansons parlent d'amour et de sexe, mais aussi de la violence et de la répression policière, de meurtre et de règlement de comptes. À ses débuts donc, le reggaeton est une musique underground, une sorte de hip-hop en espagnol aux paroles hypersexuelles qui raconte la violence vécue par les pauvres de Porto Rico. Les artistes se retrouvent dans les marathons de reggae, mais aussi dans des discothèques comme The Noise, une boîte clandestine, censurée et poursuivie par le gouvernement et la police locale. Le club, qui appartenait à Félix Rodriguez, plus connu sous le nom de DJ Negro, fonctionnait sans autorisation. Dans The Noise, DJ Negro invitait les assistants à faire du freestyle sur des pistes de hip-hop et de reggae. Ces soirées prennent un tel essor qu'elles font naître un collectif portant le même nom et qui devient vite une référence du genre. The Noise réunit beaucoup d'artistes portoricains, dont Ivy Queen et Daddy Yankee. Écoutons The Noise avec la voix d'Ivy Queen avec le titre « Somos raperos, pero no delincuentes ». Nous sommes rappeurs, pas des délinquants. Un enregistrement de 1998.
Vamos con la izquierda. Somos raperos. Vamos al medio. Somos raperos. Somos raperos. Somos raperos. Está bonito eso. Vamos para acá. Vamos para allá que está encendido. Somos raperos. Presionado por la justicia. Vamos a cantar todo este anfiteatro que está aquí. Somos raperos.
Son bien envidiosos porque ellos buscan joder con nosotros. Si cuando canto tú sientes un gozo y vi la reina en el trono destrozo. Oye, Chepe, no vamos a parar. Para el callao. Para la calla. Para el callao. Para la calla.
Loin d'être une musique facile à faire, le reggaeton mobilise la créativité, la spontanéité et la virtuosité des artistes, car l'improvisation les expose plus que lorsqu'on est dans un studio d'enregistrement et on peut refaire les prises. Le reggaeton prend la même base du hip-hop, à savoir la technique de sampler des morceaux déjà existants ou créés pour ça et de chanter par-dessus. Les DJ des années 1980-1990 utilisent des samplers, des instruments musicaux électroniques, les ancêtres des synthétiseurs. Contrairement à ce que disent les détracteurs, ce n'est pas un travail aisé. On l'entend dans la manière dont Daddy Yankee raconte comment il a pensé le morceau Gasoline et comment il l'a présenté à Looney Tunes, un duo de producteurs de reggaeton de la République dominicaine qui a produit non seulement Gasoline, mais aussi des albums comme The Last Don de Don Omar, et la Bayarde de Tego Calderón, Motivando la Yal de Zion y Lennox, entre autres. Daddy Yankee.
Mira, la gasolina me salió en Villa Kennedy, mano. Yo ahí,
la gasolina me venue à Villa Kennedy en lançant des flots.
Et
j'ai trouvé le refrain.
Gusta la gasolina, ella le gusta.
Y je l'ai enregistré comme ça à Villa Kennedy, dans mon studio.
Tenía su vale mambo
les
para
flows,
mi gata,
je les avais.
Motores, duro, y tenía el duro, el tacataca, tacataca, papá, pero eso lo tenía en blanco.
Mais ça,
y recuerdo,
je l'avais en blanc.
El momento, lo estoy viviendo contigo.
Juste tellement ce moment, je le revis avec toi.
Y yo tenía todos
j'avais
estos
tous ces flows et je me demandais
entonces,
sur quelle piste je pouvais mettre
pista
ça.
Puedo tirar esto.
Et je me souviens
mano,
du morceau Coge la que va sin yoke,
de
Looney Tunes.
De Looney.
Coge la que va sin yoke.
Jackie, métele con candela, Jackie. Mano, y yo digo,
je
yo
me
creo
dis que
esa energía pega aquí.
Bien là.
Y yo cojo la pista de Luna y empiezo a tirar los flows. Súmale mambo para que mi gata de chillo se me están parando los pelos. Yo
la chair de poule rien que de penser. Je prends la piste et je me lance les flows sur la piste de Luna. Je t'explique ce qu'est la création d'un morceau. Parfois tu lances tous les flows après parce qu'il y a des gens qui écrivent les paroles. Moi, je lance les flows d'abord. Je fais la piste, parfois on la donne aussi, et je tire les flows par-dessus.
Muchas veces, en ocasiones me entregan la pista, en ocasiones yo hago la pista y voy tirando los flows. Ya tú escuchas el color de cómo va a salir el tema.
Y como tú entiendes la color del tema, la melodía de todo el tema.
Entonces voy tirando duro, duro. Ella le gusta la gasolina, ella le gusta. Entonces me quedé pegado con la, ella le gusta la gasolina. Entonces dije, espérate.
Je me dis, attends, cela peut avoir une meilleure structuration. Je vais inviter Eddie D à collaborer ici, car Eddie D est super fort dans ça. Et là, c'est sorti. J'avais le refrain.
Y ahí salió ella prende la turbina. Y tenía el coro yo, ella le gusta la gasolina. Y él dijo, no, papi, yo creo que si te contesta una muchacha va a ser más duro.
Ahí ya vamos a Glory. Si c'est une femme qui te répond.
¿Me entiendes?
Ahí es donc que le morceau prend corps. Nous avons fait le refrain, les vers.
Hicimos el coro, hicimos los versos. Entonces yo decía, falta.
Mais moi je me disais qu'il manquait encore quelque chose.
Dentro del tema, y ahí fue que yo paré la pista y salí. Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo da. Y yo creé ese
bridge. J'ai créé ce bridge. Okay.
¿Me entiendes? Siguiente paso, llamar a Looney.
Le pas suivant a été d'appeler Looney Tunes.
Looney Tunes.
Je leur relance la mélodie.
Les voy explicando a Tunes, le voy tirando la melodía. Y yo le estoy tarareando la melodía.
Todo lo tenías aquí adentro.
No, papi, yo tenía todo en la mente. Y yo, Achi, mano, Tunes me calqueó exactamente lo que yo estaba diciendo.
Tunes a tout compris. Ahí, después de que él hizo eso,
Tunes siguió solo la pista, ¿me entiendes? Y yo al lado de él, esto se
oye bien, si pero siguió desarrollando el trabajo en equipo.
Para que tú veas lo que es el trabajo en equipo.
Le fait de sampler et de mixer des sons déjà existants reste une caractéristique du reggaeton jusqu'à aujourd'hui, comme on peut le voir par exemple dans le titre Con Calma de Daddy Yankee qui reprend un tube en anglais des années 1990. Mais plus original encore sont les reprises à partir des grands succès de la salsa latino-américaine. C'est le cas de deux titres célèbres de Don Omar et Tego Calderón, deux chanteurs-compositeurs portoricains. Don Omar, l'une des grandes figures du reggaeton, grandit dans un quartier populaire de San Juan, où il survit en 10 ans. Alors qu'il a 16 ans, il se retrouve au cœur d'une fusillade d'où il sort indemne par miracle. À partir de ce moment-là, il devient évangéliste. En 2001, il se consacre totalement à la musique et en 2003, Don Omar produit l'un des plus grands titres de l'histoire du reggaeton à partir d'une grande chanson de la salsa colombienne, La Noche, du chanteur afro-colombien Joe Arroyo, un titre de 1989. À partir de ce titre, Don Omar produit Dile, un morceau paru dans son album The Last Don en 2003. Joe Arroyo, La Noche. Don Omar, dile.
Dile que esta noche tú me vas a ver.
por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tú lloras no se compone, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra,
ay que yo no te bote,
otra, otra noche, otra,
aunque tú vuelvas con él,
otra, otra noche, otra,
cuéntale, cuéntale,
otra, otra noche, otra,
que beso mejor que él,
otra, otra noche, otra,
cuéntale, cuéntale,
otra, otra noche, otra,
cuéntale, que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que tú me quieres ver, cuéntale, que te conocí bailando.
Diego Calderón naît également à San Juan, mais il émigre jeune aux États-Unis, où il devient batteur d'un groupe de rock. En 1999, il se convertit au rap, puis au reggaeton, grâce au producteur portoricain Eddie D. Diego est un grand défenseur de la culture afro-portoricaine, notamment de la bomba, une fête populaire où la danse et les percussions rappellent le lien avec l'Afrique. Dans Yora Yora de 2006, il rend hommage à l'une des grandes figures du son cubano, du son cubain, le vénézuélien Oscar de León, en mixant l'un des titres les plus connus de toute l'Amérique latine, Llorarás, un morceau qui date de 1986. Oscar de León, Llorarás. Diego Calderón, Llora, Llora.
Oye, huye pa' allá. ¿Quién va? El negro. Diego Calderón, ahí. Llorará y llorará.
Diego, qué mala son.
Pero no voy a ser yo quien te consuele, ¿sabes?
Más tu
vez. Te estoy curando tu propia medicina. No traje flores, te tengo espina. Catira, monina, bandida creída. Quédate con todo que el negro no huirá. Todo lo que hiciste lo estás pagando. Y no soy yo, la vida te lo está cobrando con creces. Coge lo que te merece. Búscate un cura que te confiese.
Por tu mal comportamiento.
Pagarás y llorarás, otro mes que te consuele. Cumpliré con mis deberes como se debe, pero coopere. Hagámoslo con la bebé que sufre más que los dos y no conviene. No es culpa de mamita, mi papito. Amo por igual mi bonita y a tu hermanito. Cuando tú crezcas te doy detalle. No hay coraje, eso es lo que vale.
Y después vendrás a mí pidiéndome perdón, pero ya mi corazón se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele.
Tout comme le rap, le reggaeton cultive le flow. le rythme avec lequel le chanteur débite les paroles. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un exercice facile et même des artistes expérimentés ne parviennent pas à le faire. Donc, le procès d'intention que certains font au reggaeton comme au rap est à relier au mépris de classe et à la délégitimation de ses savoirs musicaux. Ivy Queen, somos raperos pero no delincuentes. Une autre caractéristique que le reggaeton partage avec le rap est la créativité linguistique, le jeu de mots et l'invention d'une langue propre. Dans le cas du reggaeton, plusieurs langues et langages se combinent. La base est l'espagnol, mais un espagnol de la rue très marqué par l'influence linguistique africaine. Comme je l'ai dit précédemment, l'accent des caribéennes et caribéens est en partie un héritage africain. Beaucoup de mots dérivent du mélange de l'espagnol avec les langues africaines que parlaient les esclavisés de l'époque coloniale. N'oublions pas que ces personnes arrivaient avec leur propre langue et qu'ils parlaient entre eux et transmettaient à leurs enfants, même si on les obligeait à parler le castillan. Pour finir, l'anglais est également utilisé et hispanisé dans une sorte de réponse à la langue impériale. Les artistes de reggaeton créent donc une nouvelle langue et enrichissent l'espagnol avec des mots comme bellaquear, bichote, blibineo, cangri, moni, mozalbete, pariciar, preciar, pum pum, racata, sandunguear, janguear, qui font la spécificité du reggaeton. Nombre de ces mots ont des connotations sexuelles. C'est d'ailleurs ce qui distingue le reggaeton du rap. Car le reggaeton va très vite jouer sur les références sexuelles plus ou moins dissimulées dans les paroles et les mélodies associées à une danse très osée, le perreo. Ce mot dérive du mot perro, chien en espagnol, et il désigne la copulation de ces animaux. C'est certainement l'aspect le plus saillant et controversé du reggaeton. Or, il faut le placer dans son contexte. Panama, Puerto Rico et tous les pays de l'Amérique dite latine sont historiquement sous influence de l'Église catholique. L'évangélisation des autochtones, suivie de celle des Noirs, est ancienne. Elle remonte au XVIe siècle. En 1980, plus de 90% de la population du sous-continent se déclarait chrétienne, dont une majorité de catholiques. L'évangélisation des latino-américaines et latino-américains, qu'ils soient indiens, noirs ou métis, a servi surtout de contrôle social durant la période coloniale et ensuite lorsque les États-nations se sont constitués. La colonisation européenne s'est toujours appuyée sur les églises chrétiennes pour acculturer les colonisés et contrôler leur corps et leur sexualité. C'est ce qui explique que l'avortement soit encore pénalisé dans beaucoup de pays de la région et que la contraception ne soit pas un droit pour tous. Le contrôle du corps des jeunes filles est particulièrement fort dans les familles où la sexualité est taboue. De plus, la colonialité du genre sépare ces jeunes femmes en deux groupes. D'un côté, les blanches, qui sont perçues comme décentes, mariables et à protéger jusqu'au mariage, notamment leur virginité. De l'autre, les racisées, notamment les noires, hypersexualisées et de ce fait vues comme pécheresses, lascives et faciles, et qu'il faut discipliner encore plus que les blanches. Toute cette organisation coloniale est couverte sous le voile moderne du romantisme, une spécialité de l'Amérique dite latine, transmise par la musique et surtout les telenovelas. La chanson d'amour se décline dans tous les genres musicaux et notamment les baladas ou slow. Ce romantisme est la phase dorée de la colonialité et il permet de légitimer l'ordre sexuel, notamment en contrôlant la sexualité des jeunes femmes. Le reggaeton vient bouleverser cet état de fait. Il transgresse la norme établie et propose une libération de la sexualité. Il n'est pas le seul genre musical latino-américain à franchir ce pas. La salsa le fait aussi à cette même époque, à travers un sous-genre appelé salsa romantique ou érotique. Pour les reggaetoneros, l'amour est central dans la vie, mais pas seulement l'amour platonique des telenovelas. L'amour charnel le devient tout autant. La jeunesse trouve dans ce genre musical la possibilité de briser le tabou familial et religieux, notamment à travers la combinaison entre le reggaeton et le perreo, le twerk. Dans les fêtes, les jeunes miment et performent l'acte sexuel. C'est la force du reggaeton que j'analyserai plus en détail dans le second volet de cet épisode. Picchiamo e Natia. Toccarte toi, te toucher entièrement. Les références très explicites à la sexualité ont, depuis le début, scandalisé les secteurs les plus conservateurs des sociétés latino-américaines et ont valu au reggaeton le mépris des blancs, des puissants. D'un côté, l'Église catholique crie au scandale. Pour elle, les fêtes de reggaeton encouragent la fornication et la débauche. De l'autre, les classes moyennes et supérieures expriment leur racisme et leur classisme vis-à-vis de ce genre musical en le minorant et en le méprisant régulièrement dans les médias hégémoniques. C'est le cas du chanteur de pop Alex Syntek, à la popularité plutôt limitée, qui a une saillie rassemblant tous les stéréotypes racistes, sexistes et classistes sur les reggaeton, avec la complicité de la présentatrice de Televisa, Adela Micha. Alex Syntek, 15 août 2017. J'en ai ras-le-bol du reggaeton, je n'en peux plus. Que se passe-t-il avec les gens? Pourquoi tout le monde avec le même petit rythme, les mêmes paroles, la même misogynie et vulgarité? Moi j'en ai marre d'écouter la même chose. Le plus dramatique, c'est que je commence à avoir beaucoup d'artistes qui ne font pas de musique urbaine finir par enregistrer du reggaeton. Les maisons de disques ne veulent plus les produire car ce qu'ils font, c'est ça. Je ne sais pas si on les oblige ou s'ils ont peur. L'autre jour, j'ai vu Franco De Vita, qui est l'une de mes idoles du piano. J'adore ce qu'il fait, chanter du reggaeton avec Nicky Jam. Peut-être qu'il en a eu envie, mais moi je ne fais pas ça. On me l'a proposé, mais non. Sauf si à la fin je me retrouve totalement exclue du monde de la musique et que personne ne veut plus me voir. Là, je dirais, peut-être. Mais je pense qu'avant, je ferais du jazz, de la musique classique. Car le reggaeton est une musique de fuite qui te drogue et ne te laisse pas penser à autre chose.
Ne pense pas.
Est très sexuelle,
non? Et très sexuelle, non? Sumamente.
Elle est très chaude, c'est pour ça qu'elle est si populaire. Il y a une différence entre la musique porno et la musique érotique. Par exemple, il y a une chanson de Mecano, Mujer contra Mujer, qui est érotique. C'est une vraie beauté, cette chanson. Les reggaetoneros font du porno, selon moi. Et toi, tu ne consommes pas du porno?
Non,
moi je pense que c'est une pratique qui te rend malade. Et aujourd'hui, les jeunes en sont très exposés. Je suis ambassadeur de l'UNICEF et ça m'inquiète beaucoup. Ils voient beaucoup de choses très dégénérées. Je suis le père d'un garçon de 8 ans et d'une fille de 12 ans. Et il faut éduquer par l'exemple. Ça ne veut pas dire que je ne sois pas chaud comme tout le monde, voire plus. Le soir, si j'ai envie de tacos très lourds, je ne vais pas les manger, sinon je vais finir avec la panse comme ça. Bah là, c'est pareil. Il faut contrôler ses instincts animaux. Sinon, on devient sauvage. Et attention, le reggaeton vient des singes. Il suffit de les voir danser. Cet échange est l'illustration parfaite de la colonialité du savoir. Syntek est un homme blanc de 50 ans qui fait de la pop, un genre historiquement produit et consommé par les classes moyennes et supérieures latino-américaines. Le discours de Syntek infériorise complètement le reggaeton et ses représentants en faisant une musique de singe, de décérébré et en assimilant le genre musical à du porno. Civilisation versus barbarie, comme au bon vieux 19e siècle. Mais en même temps, la musique des subalternes fascine ces mêmes classes par son dynamisme et sa vitalité. Car le reggaeton exalte la vie et ses plaisirs, dont celui de la chair. Venimo a pariciar y no a dormir, dit une célèbre chanson de Ángel Eclis. Il captive par son audace et sa liberté. Et il effraie aussi pour ces mêmes raisons. Le reggaeton est une forme de résistance des subalternes face au contrôle de leur corps et face à la colonialité du savoir et de la sexualité. Los Benjamin, Noche de Entierro, 2008.
Loca, loca, vete. Yo sigo vacilando. Yo
Comme on l'a vu dans le cas de la samba et de la cumbia, les dominants vont à la fois réprimer les subalternes et s'approprier leur musique. Le reggaeton subit le même phénomène d'appropriation culturelle, c'est-à-dire l'accaparement par les dominants de traits culturels des dominés sans leur autorisation et sans que les bénéfices accumulés reviennent aux détenteurs des savoirs. Le reggaeton est ainsi aspiré par l'industrie capitaliste et extractiviste de la musique, dirigée par les grandes plateformes comme Spotify ou YouTube. Parallèlement, les artistes blancs qui n'ont historiquement ni culturellement aucun rapport avec le reggaeton surfent sur la vague. C'est le cas de Enrique Iglesias et Rosalía, tous les deux espagnols, ce qui est le comble du paradoxe. Le premier est un chanteur et producteur, fils du chanteur Julio Iglesias. Il commence sa carrière au même moment que Daddy Yankee, mais Enrique Iglesias signe directement un contrat avec Fonovisa, propriété de l'entreprise mexicaine Televisa, ce qui lui ouvre les portes des pays hispanophones d'Amérique, y compris les États-Unis. Ensuite, il passera contrat avec Universal Music Latino et Sony Music. Enrique Iglesias commence par se consacrer au genre des slow pop-rock. Il chante à la fois en anglais et en espagnol. Et à partir des années 2010, il multiplie les collaborations avec les artistes latino-états-uniens tels que Chilo, Romeo Santos ou Pitbull. Puis il se lance dans le reggaeton en multipliant des singles avec Gente de Zona, Wisin y Yandel, Nicky Jam et Bad Bunny. Ce faisant, il efface ses origines espagnoles et finit par représenter les latino-américains à tous les prix latinos dans tout le continent, dont le célèbre Grammy Latino. Au total, Enrique Iglesias a vendu plus de 70 millions de productions musicales et a même gagné un Grammy au meilleur artiste latino, ce qui prouve que cette catégorie ne correspond à aucune réalité ethnique ni culturelle. Quant à Rosalía, elle est une chanteuse catalane qui se forme à la musique folklorique espagnole à l'École supérieure de musique de Catalogne. Elle se passionne pour le flamenco qui va être au début son genre de prédilection, ce qui suscite la colère de la communauté rom espagnole qui l'accuse déjà d'appropriation culturelle dans le titre Malamente par exemple. Tout comme son compatriote Enrique Iglesias, elle se lance dans le reggaeton à la fin des années 2010. Elle signe avec J Balvin un tube intitulé Con Altura. Ensuite, elle collabore avec Bad Bunny et Ozuna. Elle est également nommée aux Grammys Latinos comme représentante de la musique urbaine latina. Rosalía, Despecha, 2022.
Se sale con tu amigo tu mami con toda mi chale y ando despechada a loca bajé con un flow nuevo caja baby hackea lo muevo de lado a lado y otro lado hoy salgo con mi baby de la disco coronado y ando despechada a loca que Dios me libre de volver a tu lado lo muevo de trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te la vete, sí. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te la vete.
Le reggaeton a donc connu le même phénomène d'appropriation culturelle que d'autres musiques, mais à une échelle encore plus importante que la samba et la cumbia, au point qu'on peut se demander ce qui reste du dembow des années 1990 dans le reggaeton d'aujourd'hui. D'un point de vue décolonial, les critiques sont apportées depuis ce point de vue-là, celui du lissage du genre et de son intégration à la culture musicale dominante. La question de la race est aussi centrale. En effet, la globalisation du reggaeton a produit un blanchiment du genre qui fait que les artistes d'aujourd'hui ont oublié le lien du reggaeton avec la culture afro-caribéenne des origines. Dans l'ensemble, ils ont tendance à nier le racisme dans l'industrie du reggaeton et à s'identifier comme blancs ou métis. C'est la critique portée par Tego Calderón qui affirme, lui, sa négritude. Écoutons Loïsa de Tego Calderón, un titre de 2003 qui dénonce le racisme structurel.
Oye, esto es pa' mi pueblo con cariño de la Vallarde, con DJ Adam y Cachete, el majadero de los cueros, pa' mi pueblo que tanto quiero, de Calderón pa' Loíza entero. Oye, ando sin prisa, pero tu lentitud me coleriza, y es que no brega con Loíza, quiere hacer pensar que soy parte de una trilogía racial donde todo el mundo es igual, sin trato especial soy perdonar. Eres tú quien no te sabe disculpar, no sé cómo justifica tanto mal. Es que tu historia es vergonzosa, entre otras cosas. Cambiaste la cadena por esposa. No todos somos iguales en términos legales, y eso está probado en los tribunales. En lo claro, la justicia se tiene con cascajo. Oye, por eso estamos como estamos.
Que se jode
si no echado pa' abogado. Yo te probé uno el Estado, pero hermano, te llevo quien te trajo, te matan y no desean. Las aulas se te inundan, asistencia legal es defensa de segunda. Nunca va a haber justicia sin igualdad, maldita maldad que destruye la humanidad. ¿Con qué potestad va a causarme la libertad si yo no reconozco su autoridad? Nunca va a haber justicia sin igualdad, maldita maldad que destruye la humanidad. ¿Con qué potestad va a causarme la libertad si yo no pertenezco a su sociedad? Esta hipócrita vanidad, falsedad en cantidad, en muchos de estos sin felicidad. Manipulada viciosamente, conveniencia del prominente, de los pudientes. En el pasado se curaron, abusaron y yo me niego a no darme por enterado. Se dice que las cosas han cambiado, no te duermas, los anormales andan con palos. Porque he oído a Rubén Berrío abogar por los míos, por eso en ninguno confío. Todos convienen que mi pueblo negro no padece, pues que tú crees que se lo merece.
Le reggaeton garde malgré tout son potentiel transgressif, notamment en matière de genre. Car contrairement à ce que soutiennent ses détracteurs, le reggaeton n'est pas plus sexiste que les autres genres musicaux. Il a vu naître en son sein des artistes féminines qui ont pris leur place dans le milieu et ouvert la voie à l'expression de problématiques propres aux femmes et même aux minorités sexuelles. C'est ce que nous détaillerons dans la seconde partie de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le partager, car le savoir est un outil d'émancipation. À bientôt. Angel y Chris, Ben Bailalo, 2005.
vuelves loco cuando tú.